Bienvenue dans cette deuxième partie dont on en parle, consacrée, je le rappelle, aux personnes à haut potentiel, que ce soit chez les adultes ou les enfants, avec nos trois invités qui sont Pascal Roux, psychologue FSP, Fiona Fretz-Tong, psychologue adjointe au service de pédopsychiatrie de la Fondation de Nantes, et Florence Del Rio-Kraft, qui est mère de deux enfants à haut potentiel de 15 ans et 18 ans, et membre de l'ASEP, Association Suisse pour les enfants précoces. Alors, beaucoup de questions à notre guichet, notamment sur le dépistage, Julien Schecter.
Oui, Jessica, nous demande sur le guichet. Ma fille a été testée à 7 ans, mais ses résultats ont été vraiment trop hétérogènes. 152 pour la compréhension verbale, nous donne-t-elle comme exemple, pour donner une note de QI. Alors, faut-il faire un bilan supplémentaire dans cette situation? Et si oui, lequel? Finalement, quelle est la démarche à suivre dans le cas de résultats nettement hétérogènes? Peut-être on commence avec vous, Fiona Fretz-Tong.
Oui, alors je pense qu'il faudrait faire un bilan plus complet sur le fonctionnement global de cet enfant pour aider à voir qu'est-ce qui a fait déjà qu'on s'est posé la question de savoir si oui ou non elle avait un haut potentiel et comment ce potentiel interfère dans sa vie de tous les jours et dans sa gestion, je sais pas, sociale, affective, émotionnelle, globale.
Mais quels sont les symptômes, entre guillemets, c'est pas une maladie, hein, mais quels sont les symptômes qu'il faudrait identifier avant de se dire justement je vais aller faire tester mon enfant?
Je pense que c'est quand un enfant se présente peu bien ou en souffrance dans le cadre scolaire ou au sein du groupe de pères ou au sein de la famille. Et j'imagine que c'est ces questions-là qui ont peut-être amené le fait qu'elle soit amenée au devant d'une psychologue qui a effectué des tests. Et c'est pas, comme nous l'avions dit la dernière fois que nous étions ici, c'est pas un chiffre en soi qui va permettre de déterminer, mais c'est un fonctionnement global qui va nous aider à peut-être chercher quelles sont les meilleures façons d'aider cet enfant.
Florence Del Rio-Kraft, vous, c'est quoi qui vous a fait, qui a été déclencheur pour que vous ameniez vos enfants à être testés?
Alors nous, on a amené David en premier parce que David présentait vraiment des difficultés au niveau scolaire. Enfin, pas des difficultés d'apprentissage, de loin pas. Il faisait absolument rien et puis ça rentrait tout seul. Guillaume, même histoire, mais c'était surtout son comportement à l'école qui devenait très désagréable pour les enseignants parce que ben, soit il faisait rien, soit il était complètement surexcité. Et puis, c'est vrai qu'à la maison aussi, c'était assez difficile parfois parce que ben, tout le temps, ces questions continuelles. C'est long, on se dit ben, il faut quand même qu'on aille voir quelque chose parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il souffrait.
Alors voilà pour les enfants, mais il y a aussi beaucoup de questions qui concernent les adultes. Violette notamment nous écrit sur le guichet: j'ai 48 ans et un parcours professionnel très riche et varié. Actuellement je suis dans un poste qui ne me convient pas car trop administratif. Alors problème, dès que je maîtrise le sujet il y a trop de routine, je m'ennuie, je cherche un autre poste. J'éprouve un mal-être réel à trouver ma voie et la quête d'un poste qui me plaît sur le long terme est une vraie souffrance, d'autant plus que mon compagnon qui est très stable, il est enseignant en secondaire, en souffre et est déstabilisé. J'ai l'impression d'avoir une cocotte minute dans la tête avec des pensées qui ont de la peine à s'arrêter. Est-ce que cela pourrait être un signe de haut potentiel? Avant de vous laisser la parole, Pascal Roux, pour lui répondre, j'aimerais juste ajouter encore que Charlotte sur le guichet est un petit peu dans la même situation. Et elle dit qu'en plus, sa fille a été testée haut potentiel. Alors elle se demande comment faire des tests. Est-ce qu'elle a plus de chances de l'être également? Alors quand on est adulte, comment est-ce qu'on dépiste?
Alors, cette démarche, effectivement, se fait souvent par les enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent être détectés, notamment à l'école, au travers de leur vie scolaire, qui est parfois un peu délicate. Du coup, les parents se retrouvent dans le parcours de leur enfant et puis disent « mais j'étais comme ça quand j'étais enfant ». Et puis, du coup, la question du haut potentiel chez le parent, bien sûr, se pose. On constate, j'ai pas fait d'études personnelles, mais on constate que quand il y a un enfant qui est HP, au moins un des deux parents l'est. Donc, il y a une forte probabilité pour que, si un enfant est HP, l'un des deux parents le soit également.
Au 0800 108 208, nous accueillons Ariane de la Tour de Paix. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Je voulais savoir un peu comment on pouvait aider les enfants qui sont HP, mais qui présentent aussi des troubles associés, c'est-à-dire dysgraphie, dysorthographie, dyslexie, TDA, hyperactivité, déficit d'attention. Qui sont des enfants qui sont en grande souffrance parce que entre leur potentiel intellectuel, la vitesse à laquelle ils réfléchissent et la mise en œuvre scolaire des apprentissages, il y a un énorme décalage. Et j'ai l'impression que des fois l'école n'est pas préparée à accueillir ces enfants.
des enfants qui ont des troubles associés à leur haut potentiel. C'est courant, Pascal Roux ?
Oui, c'est courant. On trouve chez à peu près 50% des hauts potentiels un trouble associé. Ça veut dire soit un 10, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, soit un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça veut dire qu'on retrouve très souvent chez les enfants, mais chez les adultes aussi, ce qu'on appelle des profils hétérogènes dans le test QI, c'est-à-dire des très grandes performances dans certains domaines et puis des difficultés dans d'autres. Donc ce qui arrive parfois, c'est que du coup le QI n'atteigne pas les 130, donc on exclut le haut potentiel si on s'arrête au chiffre lui-même, alors qu'on se retrouve, moi, ce que j'appelle dans la zone grise, c'est-à-dire entre 120 et 130 de QI, il est important d'aller voir les chiffres de manière beaucoup plus spécifique pour voir est-ce qu'il y a un trouble associé et d'aller voir, comme disait ma collègue, hein, d'aller faire des compléments de bilan pour voir ce qui se passe au niveau de l'attention, au niveau justement au niveau neurovisuel aussi, c'est-à-dire il peut y avoir parfois de la difficulté au niveau de l'association entre l'œil et le cerveau, qui fait que l'enfant est en difficulté, il est obligé de compenser. Donc il va utiliser son intelligence, son haut potentiel pour compenser son trouble. C'est un peu vous vous appuyez sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Donc le 10 ou le trouble masque le haut potentiel et le haut potentiel masque le trouble.
Du coup, comment prend-on en charge ces enfants, Fiona Fredstong?
Déjà en faisant un bilan complet, ça peut être soit déjà chez le pédiatre et ensuite voir chez des logopédistes pour s'il y a des questions de dyslexie ou dysorthographie. Et ensuite, éventuellement, dans une consultation pédopsychiatrique comme chez nous, pour essayer de voir le fonctionnement émotionnel global et de voir quelle serait la réponse. Il n'y a pas toujours une réponse, mais plusieurs réponses. C'est un lourd parcours, c'est
vrai.
Mais
quelle réponse, par exemple ?
Ça peut être la mise en place d'un traitement. Il faut voir qu'est-ce qui est le problème le plus prégnant, à quel moment dans le développement de l'enfant. Hein. Si c'est la dyslexie qui est la chose à traiter en premier, eh bien, on va privilégier cela. Peut-être ça peut être une dyslexie et des problèmes émotionnels, et on va mettre en place deux types de traitements. C'est chaque cas.
C'est du cas par cas.
Cas par cas.
Nicole de Delémont est avec nous. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Je suis enseignante et j'aimerais bien connaître la définition du trouble de l'attention et la corrélation qu'il y a entre le trouble de l'attention et le haut potentiel.
Trouble de l'attention et haut potentiel, est-ce que les deux sont liés, Fiona Fredstong?
Des fois oui, des fois non. Hein, des troubles de l'attention, de nouveau, peuvent s'inscrire dans une multitude de troubles divers, hein, qui ne sont pas toujours isolés en tant que troubles seuls. Et c'est à voir un petit peu par cas, qu'est-ce qui fait qu'un enfant a de la peine à se concentrer en classe ou présente des troubles attentionnels. Des fois, il peut y avoir une pathologie plus grave. Des fois, ça peut être associé à effectivement un haut potentiel, mais à d'autres difficultés. Donc, c'est difficile de répondre avec une réponse là aussi.
On a une question d'une enseignante, ça fait penser à une autre question de Bernadette sur notre guichet. Notre fille a été dépistée HP à 8 ans et demi en 2013. Elle et la famille vont très bien, ça fait aussi plaisir d'avoir ce genre de nouvelles. Nous avons deux questions, elle est dans le tiers supérieur de sa classe, sans problème, ni réel potentiel particulier à l'école, hormis une compréhension très rapide et une énorme sensibilité artistique. Nous n'avons pas annoncé le HP à sa maîtresse de peur que son regard change envers elle. Devrions-nous l'annoncer avec le risque qu'elle lui mette une étiquette? Nous doutons qu'elle soit réceptive à cela. Puis elle pose une deuxième question, comment annoncer le HP de sa sœur à son frère qui est 2 ans plus âgé? Alors ça, on va peut-être en parler dans un deuxième temps, mais on avait aussi Stéphanie sur le guichet qui nous parle de son fils qui a été détecté très tôt comme HP et qui nous demande si elle doit l'annoncer à son employeur qu'il est donc en apprentissage, et est-ce qu'il faut l'annoncer à l'employeur? Ça rejoint un petit peu la question de la maîtresse. Alors est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en avez parlé? On va commencer avec vous, Florence Del Rio-Craft. Est-ce que vous en avez parlé du fait que vos enfants étaient à haut potentiel avec les enseignants?
Alors, pour David, on était obligés, naturellement, parce qu'on devait donner une réponse. Enfin, on se sentait dans l'obligation de donner une réponse aux enseignants qui se plaignaient de son comportement. C'est toujours délicat. C'est clair que, moi, je pense qu'il ne faut pas y aller en disant, voilà, alors notre fils était à haut potentiel, et puis c'est tout. Je pense qu'il faut vraiment être très humble quand on l'annonce, ne pas venir avec des demandes, je ne sais pas, exagérer en disant, ben là, il faut s'occuper de lui, machin. Non. Moi, je pense que c'est important de le dire. Après, je pense qu'il faut beaucoup, j'ai envie de dire, travailler avec les enseignants. Nous, c'est ce qu'on a vraiment privilégié, c'est-à-dire d'avoir un dialogue tout le temps. Parce que c'est difficile, il y a certains enseignants, nous, on l'a vécu avec David, il avait une enseignante à un moment donné qui était remplaçante, qui, elle, est tombée dans l'empathie. Elle était tellement dans l'empathie qu'à un moment donné, David a, j'ai envie de dire, a pris le dessus, ce qui fait qu'elle n'arrivait plus à contrôler parce que, voilà, il avait compris le jeu, ça marchait, ça, c'est pas bon non plus. C'est vrai que c'est difficile, il y a des enseignants qui veulent bien faire, il y en a d'autres qui sont alors complètement hermétique. Moi, j'ai entendu des choses absolument terrifiantes. Mon fils a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de remarques d'enseignants. Maintenant, c'est plus le cas, Dieu merci.
Comme quoi ?
Je sais pas, t'arriveras jamais à rien, toi qui es si intelligent, pourquoi t'es pas capable de faire cet exercice juste? Je veux dire, c'est terrifiant, mais je peux comprendre aussi que parfois c'est surprenant pour ces enseignants d'avoir un élève qui parfois ne performe pas du tout et tout d'un coup a des résultats incroyables. Mais je pense que c'est important de le dire quand l'enfant est en souffrance. Pour Guillaume, on ne l'a pas dit, parce qu'il n'y avait pas de nécessité.
Pascal Roux.
Oui, je pense que c'est important pour l'équipe enseignante de savoir si l'enfant est à haut potentiel ou non. Je peux comprendre aussi que les parents soient un peu frileux, parce que parfois cette information n'est pas très bien reçue. Mais ce que je crois important, c'est bien d'arriver à identifier que l'EHP chez l'enfant n'excuse pas le comportement inadéquat de l'enfant. C'est pas il est HP, donc on fait comme ça. Enfin, c'est comme ça, puis on peut rien en faire. C'est bien l'idée de... On donne une information qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant, mais pour amener l'enfant aussi à fonctionner correctement en classe. C'est pas il est HP et puis on lâche l'affaire. C'est vraiment une histoire pédagogique où on est tous ensemble autour d'une table et on cherche des solutions pour cet enfant.
Alors il y a l'école et puis il y a la question de la fratrie qui revient aussi avec la question de Dominique qui nous dit nous avons deux enfants dont le premier 10 ans a été détecté HPI. Alors HPI c'est quoi ? C'est HP intellectuel.
Voilà,
haut potentiel intellectuel. Il est passé de 4e Armos en 6e Armos. Il souffre d'un léger... son frère 8 ans souffre d'un léger retard dans son développement psychomoteur. Il y a souvent des frictions entre eux, car l'aîné peut être un brin cassant avec son frère. Comment faire pour ne pas laisser ce genre de situation se passer tout en ne protégeant pas trop le cadet? Alors c'est vrai, est-ce qu'il faut le dire, pas le dire, qu'on a un enfant haut potentiel, que ça crée des frictions dans la fratrie? Fiona Fredstong.
Mais c'est toujours un petit peu la question après de famille en famille, comment on gère les différences dans une fratrie, parce que chaque enfant est différent et je crois que les parents sont régulièrement confrontés à ce qu'un enfant est comme si madame disait aussi que ces deux enfants, bien que les deux avec un potentiel intellectuel supérieur, eh bien sont très très différents, et comment on gère après les rivalités, ça c'est une question très personnelle à chaque famille. Alors il y a des familles qui peuvent avoir besoin de soutien pour ça et je ne peux que les encourager à le chercher. Il y a de nouveau peut-être pas une réponse à donner.
Martine, sur le guichet, nous posait une autre question par rapport à l'annonce ou pas. C'est mon enfant HP souhaite avoir plus d'informations sur les enfants tels que lui. Alors, est-ce que c'est bien de lui donner accès à des livres ou à des articles qui traitent du sujet? Avez-vous des références à me donner? Il a 11 ans. Donc, est-ce qu'on en parle avec l'enfant lui-même? Est-ce qu'on lui annonce? On lui fait lire des choses? Comment est-ce que vous avez fait en tant que maman, Florence?
Alors, moi, j'ai... Naturellement, David était partie prenante dans tout ce qu'on a fait, dans les tests et tout ça. Donc c'est clair que naturellement, il l'a su tout de suite.
À quel âge ?
La deuxième fois, c'était à 9 ans. Donc d'accord. On en a beaucoup parlé avec lui. On a bien insisté par le fait en disant « Tu n'es pas plus intelligent que les autres, tu es juste un peu différent. » C'est vrai, c'est aussi important, pas qu'il arrive à l'école puis qu'il dise « Écoutez, alors moi je suis super. » Ça, c'était vraiment pas du tout ce qu'on voulait. C'est pas dans la mentalité de mes enfants, mais ça aurait pu arriver parfois. Donc je pense que c'est bien. Après, effectivement, quand on fait partie, par exemple, comme l'association La ZEP, ça permet à nos enfants de rencontrer d'autres enfants, pas du tout dans une idée élitiste, c'est plus des enfants qui peuvent se parler, qui peuvent comparer leurs expériences. Et en général, c'est surprenant parce qu'on les met ensemble, on a fait ça plusieurs fois dans des pique-niques, dans des choses comme ça, il n'y a jamais de bagarre. Il se passe absolument rien. Alors il y a tout, il y a les intellectuels qui vont plutôt lire et faire des jeux, et il y en a d'autres qui jouent, comme tous les enfants, qui jouent au foot et tout, mais je veux dire, ça leur fait du bien. Par contre, mes enfants, c'est clair, n'aimeraient pas avoir que des copains au potentiel, ils ont besoin d'avoir des copains de tout.
Fiona Fredstong.
Oui, j'avais peut-être juste une remarque par rapport à cette question de comment gérer les différences dans la fratrie, peut-être à tenir en compte que des différences, il y en a toujours, et différent ne veut pas dire mieux ou moins bien. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre.
Beaucoup de témoignages à notre standard. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. Il est déjà 9h20, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est celle de dire à son employeur qu'on est haut potentiel ou pas. Pascal Roux, Quel conseil donner ?
Alors là, c'est toujours délicat. On est dans des réponses personnalisées. Donc, en faire une généralité est compliqué. Ça dépend tout de l'intention. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne cherche quand elle indique à son employeur qu'elle est au potentiel ? Est-ce que c'est une façon de mieux trouver sa place au sein de l'équipe et de donner la possibilité à son employeur de lui trouver une meilleure place ou une place dans laquelle il peut s'épanouir ? Ça me paraît une bonne idée. C'est très compliqué comme question. Ça dépend de son intention. La difficulté, c'est un petit peu ce que disait Florence Del Rio. L'idée, ce n'est pas de dire je suis au potentiel, donc je suis supérieur. Parce que là, on va se retrouver avec des difficultés.
C'est souvent
dans l'équipe.
Comme ça.
Oui, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est cette idée de j'ai une manière un peu différente de fonctionner. Et pour être bien, c'est vrai que les hauts potentiels ont besoin d'avoir un certain nombre un environnement dans lequel ils se trouvent à l'aise. Donc si c'est pour ça, pourquoi pas.
Vous écoutez Le Guichet dont on en parle, il est consacré aux hauts potentiels et nous accueillons Arthur de Lausanne au 0808-208. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Quelle est votre question ou votre témoignage ?
Alors, j'ai un fils qui a...
On vous entend très mal, Arthur. Attendez.
Alors, j'ai un fils qui a plus de 30 ans. Justement, en fait, pendant toute sa jeunesse, que ce soit sport ou études, a toujours été parfait. Si bien qu'à un moment donné, j'ai fait faire un contrôle et on a constaté qu'il avait un QI de 138 global. Quand il a eu ses 24 ans, j'ai eu un très très grave accident. Aujourd'hui, il a 10 ans de plus et en fait, il a totalement lâché prise sur la vie actuelle. Ça veut dire qu'il est à la dérive, mais ça se voit pas, mais il travaille pas, il vit de petits boulots à gauche et à droite, mais il est totalement lâché et je sais pas comment l'aider.
Voilà, aider un haut potentiel qui a eu un gros casse dans sa vie. Est-ce que les hauts potentiels, être haut potentiel déjà, est-ce que ça, comment dire, ça rend plus fort face justement à des gros casse dans la vie? Florence Del Rio Kraft, vous hochez de la tête, apparemment pas. Hein.
Alors franchement, moi ce que je vois, non. Pour chez moi, hein, naturellement, il y a peut-être des gens qui en font une force, mais c'est vrai que moi j'ai des enfants qui sont très très sensibles. Et quand il y a quelque chose qui se passe, qui est difficile, on a eu un décès cet été, ça a été vraiment, vraiment pénible pour les garçons. Ils ne l'ont pas forcément montré, je veux dire, on n'a pas eu des gros pleurs, mais il y a eu beaucoup de questions. Et c'est vrai que je pense que justement cette sensibilité, cette façon de ressentir les choses augmente encore la douleur.
On est plus fragile, Pascal Roux ?
Je pense qu'on est plus fragile quand on a de la difficulté à canaliser ses talents. Pour moi, c'est du talent, le haut potentiel. Cette hypersensibilité qui est souvent vécue comme une malédiction par les hauts potentiels est pour moi une grande force. Je pense que la sensibilité, c'est ce qui nous permet de créer des relations de qualité avec les gens, qui nous permet d'être attentifs, d'être vigilants à ce qui se passe autour de soi. Mais je pense que ça a besoin d'être canalisé. On a besoin d'apprendre comment ça fonctionne et comment trouver sa place, encore une fois. Donc je pense que ça peut être une très grande force, mais je pense que ça peut être aussi une faiblesse si on n'arrive pas justement à en faire un talent.
Et ce père nous demandait comment est-ce qu'on aide alors finalement quelqu'un qui est à haut potentiel. Est-ce que c'est plus facile ou plus dur d'aider quelqu'un qui est à haut potentiel? Est-ce qu'on lui parle? Comment est-ce qu'on fait, Pascal Roux?
Alors, moi je fais du coaching. Hein. Je fais du coaching avec des personnes haut potentiel et des personnes non haut potentiel. Ce sont les mêmes outils que j'utilise. C'est-à-dire, c'est le questionnement, c'est le travail sur les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, c'est le travail sur les ressources, qu'est-ce que j'ai à disposition et qui me permet de développer une vie qui me rend heureux. Donc, ce sont les mêmes outils pour les personnes dites standards que pour les hauts potentiels. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur qui suis-je et sur les croyances, c'est-à-dire qu'est-ce que je crois de moi et qu'est-ce que je crois du monde. Et le haut potentiel peut faire une différence. Justement, savoir qu'on est à haut potentiel change aussi cette vision du monde sur soi et sur les autres. Et ça, c'est un gros travail à faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'accompagne dans mon cabinet, c'est cette idée de... qu'est-ce que je crois de la vie? Est-ce que je crois que la vie est plutôt belle? Est-ce que je crois que je suis plutôt quelqu'un de bien? Et ça va permettre à la personne de se réaliser. Quand il y a eu des gros clashs pour répondre à cette question, je pense que c'est les mêmes besoins qu'une personne standard. C'est-à-dire, il y a visiblement un choc émotionnel, donc il y a peut-être du post-traumatique. Je ne sais pas exactement ce qui se passe pour cette personne, mais ce sont les mêmes besoins. Ça veut dire un travail thérapeutique, peut-être, d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a coincé. Et ça, qu'on soit au potentiel ou non, ça ne change rien.
Nous accueillons Gérard de Vaudran. Bonjour Gérard. Gérard n'est plus là, il nous a quittés. Alors nous accueillons Karine d'Areuse. Bonjour Karine. Karine est avec nous ?
Oui.
Bonjour Karine. Hilar en plus. Bonjour Karine.
Oui, parce que je me demandais si j'allais pas vous quitter aussi. Je me suis dit, je vais.
Oui, il y a beaucoup d'attentes, hein, voilà. Malheureusement. On vous a fait patienter longtemps. Mais voilà, c'est à vous.
Alors, écoutez, j'avais téléphoné pour dire donc, peut-être après réflexion multiple sur le sort de CHP, dont il paraît je fais partie, enfin voilà, pour des parents, c'est pas un cadeau de naître comme ça.
Pourquoi ?
Mais parce qu'ils savent pas quoi faire de nous. En fait, moi, je suis née dans les années 50 et les miens ont passé 20 ans à essayer de me dresser, de me mouler, tel j'étais l'aînée, tel le canard qu'ils auraient voulu. Et eux n'ont pas reçu l'oiseau désiré, donc ils m'ont entravée par tous les moyens, en me disant, ben toi, tu causeras quand tu auras 20 ans. Pour l'instant, tu as un droit, c'est celui de ta terre.
Voilà. Tout le monde autour de la table acquiesce, Karine. Tout le monde acquiesce. Florence Del Rio Kraft, vous-même, comment vous avez réagi quand vous avez appris que vos enfants étaient au potentiel? Vous aviez, enfin, plutôt avant de le savoir, est-ce que vous aviez la même réaction que les parents de Karine?
Dieu merci, non. Pour mes enfants, hein. Non, je veux dire, chez nous, sans en tirer, alors absolument aucune gloire. D'ailleurs, moi, je l'annonce pas. Là, c'est vrai que c'est un peu différent puisque je viens à la radio témoigner. Mais je veux dire, c'est vrai, c'est une chance extraordinaire d'avoir ces enfants-là. Par contre, comme on l'a dit plusieurs fois, ben, c'est des enfants qu'il faut canaliser, il faut les soutenir, il faut être là. Mais comme tout autre enfant, quelque part, je pense qu'en tant que parent, c'est notre rôle.
Pascal Roux.
Oui, je trouve cette métaphore autour du vilain petit canard qui parle très fort au potentiel. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une famille, c'est une famille de canards, évidemment, si vous êtes un cygne, c'est très difficile de faire sa place, encore une fois, et d'être accueilli. Donc, malheureusement pour cette dame, c'est vrai que c'est difficile, mais souvent par méconnaissance. C'est-à-dire, les personnes ne savent pas ce que ça veut dire qu'être au potentiel. Les parents n'ont pas toujours identifié ce que ça voulait dire. Et en fait, ils ont une intention positive, qui hélas se retourne, mais qui a une intention positive, c'est que l'enfant corresponde à une société et à un fonctionnement dans une société. Donc ils vont essayer de faire rentrer un cygne dans une vie de canard. Et c'est vrai que c'est très douloureux pour la personne, malheureusement.
Est-ce qu'il faut, peut-être en conclusion, quand on décèle ce HP adulte ou enfant, est-ce qu'il faut un suivi ou est-ce qu'on peut aussi s'en sortir très bien dans sa vie tous les jours? Est-ce qu'il faut un dépistage? Est-ce qu'il faut un suivi ensuite? Quel suivi? Est-ce que simplement discuter avec ses proches ou ses parents, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut aller voir une psychologue, Fiona Fredstong?
Mais pas forcément. Et on l'avait dit précédemment, il y a beaucoup de personnes qui ont un potentiel intellectuel très élevé et qui n'arrivent jamais dans des services de consultation, qui ne sont même jamais... dépistés par le biais de tests et qui vivent très bien. Je crois que c'est vraiment à voir, selon la personne, quelle souffrance ce potentiel implique et qu'est-ce qu'il en est de sa maturité émotionnelle, en tout cas pour ce qui est des enfants, et de la gestion des émotions.
À 9h28, on va devoir malheureusement fermer ce guichet. Désolé pour toutes les questions qui sont restées sans réponse. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Merci à nos trois invités. Pascal Roux, psychologue FSP, Fiona Fredstong, psychologue adjointe au service de pédopsychiatrie de la Fondation de Nantes, et Florence Del Rio Kraft, maman de deux enfants à haut potentiel. Isabelle Barthes était en régie. Merci à elle. Merci aussi à l'équipe de coulisses. Bastien Fonvis, Delphine Sage, Delphine Guillet et Agnella Galicianou. Muriel Felès s'occupe du site internet et c'est Stéphanie Jovanovic qui signait la programmation musicale.